Vous écoutez
RMC.
Merci de démarrer la journée avec nous. Il est 8h sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Il est toujours stabilisé ce matin. L'incendie en Gironde n'a pas progressé cette nuit, annonce la préfecture, mais les fortes chaleurs qui arrivent font craindre le pire pendant que les habitants évacués sont sous le choc. Des photos qui leur parviennent de leur commune complètement calcinée. Des feux qui soulèvent la question du financement des équipes de pompiers. Les départements, vous l'entendrez, estiment que leur participation est trop élevée. Et puis le grand retour de Zizou chez les Bleus, 20 ans après avoir rangé le maillot, Zinedine Zidane revient sur le banc comme sélectionneur. Ce sera officialisé ce matin en conférence de presse.
La nuit a été calme en Gironde, le méga-feu est toujours stabilisé ce matin.
Des nouvelles relativement rassurantes de la préfecture de Gironde sur cet incendie qui a ravagé 42 000 hectares en moins d'une semaine autour du bassin d'Arcachon. Des villes méconnaissables, des paysages complètement calcinés comme dans la commune du Porge où 183 maisons ont été détruites et où Inès Zegloul s'est rendue pour RMC.
On tournera à gauche. Là, on est sur l'avenue du bassin d'Arcachon et bah, là, il n'y a plus rien. Quoi. Vous allez le voir. Hein. Je suis monsieur Legrand, adjoint à la mairie et en charge de l'entretien de la voirie et des réseaux.
On est sur une route en ligne droite. On roule quand même depuis quelques minutes. C'est combien de kilomètres de maisons brûlées là?
Là, il y a 4,5 km, rien que sur cette rue. En gros, un quart de la population, qu'est-ce que tout perdu, quoi. J'ai pas de mots. C'est pas, on dirait que la guerre est passée, quoi, en gros.
Dans cette maison, par exemple, située au numéro 89, il ne reste qu'une carcasse. On dirait que le toit a explosé. Le squelette de l'électroménager jonche le sol. Cette maison, elle appartient à Frédéric et Anne-Claire. Ils n'ont pas encore pu revenir ici, alors ils nous ont demandé de leur montrer des photos.
Quand vous voyez ces images, ça vous... Je vous entends souffler, c'est...
Il n'y a plus rien à faire, quoi. C'est bien là qu'on a tout construit, c'est bien là qu'on a été heureux, c'est bien là qu'on a vécu, qu'on pensait vivre encore longtemps. C'est un passé, c'est des meubles, c'est des photos, c'est des affaires que nos parents nous ont léguées. C'est
vos tripes, quoi, qui partent. Hein.
C'est toute une vie.
Nous, on n'est pas retourné au Porge. On ne sait pas, en fait, ce que ça va nous faire d'y aller. Mmh. Est-ce qu'on va pouvoir y revivre psychologiquement? Est-ce que ça va être viable?
À partir de maintenant, vous allez vivre au jour le jour, le ciel.
De toute façon, on n'a pas le choix, là. Sidération.
Le reportage RMC d'Inès Zegloul. Le gouvernement a décidé d'allonger jusqu'au 31 août le délai pour déclarer un sinistre et les assureurs prendront en charge les frais de relogement des personnes évacuées. On le disait donc, il y a du mieux ce matin. La surface brûlée n'a pas évolué, indique la préfecture de Gironde. Mais ce répit sera peut-être de courte durée. Les autorités restent particulièrement vigilantes face à la météo. Charlène Villemer, à cause de cette nouvelle vague de chaleur qui fait craindre de nouveaux départs de feu.
Et oui, Météo France va placer la Gironde en vigilance jaune d'ici la mi-journée. Vigilance qui pourrait évoluer d'ici ce soir vers l'orange. Cet après-midi déjà, les températures atteindront les 36 degrés à Marcheprime près de Bordeaux et jusqu'à 41 degrés ailleurs dans le département. Autre grosse difficulté, eh bien la nuit prochaine, les températures ne vont pas baisser, ça va rester élevé. 17 à 19 degrés. Le pic de chaleur, lui, il est attendu dès demain. Le thermomètre va prendre encore 2-3 degrés supplémentaires. Il faudra notamment 38 degrés près de Bordeaux et jusqu'à 41 ailleurs dans le département. Autre difficulté, ce vent girouette très changeant, il va continuer de tourner jusqu'à demain. Ce vent qui joue un rôle crucial dans le combat acharné des pompiers contre les flammes. Du mieux à venir, eh bien, des orages sont attendus dans le secteur d'ici demain soir. Orages qui devraient apporter donc un peu de fraîcheur.
Une précision de Charlène Villemer, un peu de fraîcheur, on l'espère, pour aider les pompiers. Ils sont près de 2800 toujours mobilisés en Gironde, dans le département voisin des Landes. L'incendie est fixé, a annoncé hier Emmanuel Macron en déplacement dans la région. Feu contenu aussi dans le Var où 4 pompiers ont été légèrement blessés dans un accident de la route. Un autre accident dans les Bouches-du-Rhône dans lequel est mort le caporal Laurent Manson, un sapeur-pompier volontaire de 38 ans qui partait mettre du carburant dans son camion-citerne lorsqu'il a fait une sortie de route. Les circonstances de l'accident restent encore à déterminer.
Et une interrogation commence à monter. Les pompiers manquent-ils de moyens?
C'est en tout cas ce que déplore l'Association des départements de France qui appelle à repenser, à revoir le système de financement des SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours financés à hauteur de 60% par les départements qui alertent donc sur un effort trop grand, Léonie Guilbeault.
Oui, impossible pour les collectivités locales d'investir davantage dans les services départementaux d'incendie et de secours, selon François Sauvadet, président de Département de France.
On est actuellement asphyxiés par les charges qui nous sont imposées par le gouvernement. Les départements français, aujourd'hui, financent pratiquement 60% du risque de sécurité civile. On ne peut plus faire face au bout du système.
Au moment où les feux de forêt se multiplient, il faut trouver d'autres sources de financement. Par exemple, augmenter la taxe sur les compagnies d'assurance, idée que défend Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne.
Quand on sauve des vies humaines, quand on sauve des bâtiments, quand on sauve des véhicules, c'est des dépenses en moins pour les assurances. Et donc que les assureurs contribuent à permettre aux pompiers d'avoir des moyens plus importants, ce n'est que justice.
Autre piste, faire bénéficier les SDIS d'une partie de la taxe de séjour payée par les vacanciers.
Plus un département est touristique, plus il y a besoin de pompiers. Et donc qu'il y ait une part de contribution de ceux qui, en tant que touristes, viennent sur un lieu, ça a aussi du sens.
La création d'une taxe additionnelle sur le foncier bâti est également préconisée par Département de France.
Et je vous signale qu'en Gironde, les manifestations culturelles et sportives sont interdites jusqu'au 8 août, annonce de la préfecture. Et aucun train ne circulera aujourd'hui au sud de Bordeaux, sauf en direction de Toulouse et d'Agen.
Il est 8h07 sur RMC. SOS Racisme va déposer 8 plaintes contre des boîtes de nuit et des plages privées de la Côte d'Azur.
L'association a mené une série de testings le week-end dernier. Et le résultat est édifiant. Une boîte de nuit sur 3 est soupçonnée de délit de faciès. Pour les plages privées, c'est 1 sur 6, Philippine Boulet.
Sur la Côte d'Azur, des dizaines de jeunes militants de l'association, tous sur leur 31, se sont répartis en groupes selon leur couleur de peau. Au total, ils se sont présentés à l'entrée de 23 plages privées et 17 discothèques. Résultat, aucun refus frontal, mais selon Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, les jeunes racisés restent confrontés à des discriminations.
Sur les plages privées, on place les personnes dans un lieu beaucoup moins favorable pour des boîtes de nuit testées. On pratique une discrimination, soit en expliquant que la boîte de nuit était pleine, ce qui était faux. Ou alors, plus subtil, ce groupe de personnes noires à qui on dit qu'il faut qu'elles dépensent 200 € pour entrer.
L'association avait mené le même genre de testing il y a 2 ans et sur le terrain, Dominique Sopo le déplore, rien ne change.
Nous aimerions que les pouvoirs publics soient davantage au rendez-vous plutôt que de faire preuve d'un manque de fermeté face à ce fléau.
L'association entend déposer 4 plaintes contre des plages privées et 4 autres contre des discothèques.
Philippine Boulet, 2 nouvelles plaintes déposées contre Patrick Bruel, plainte pour viol et agression sexuelle déposée ces 2 dernières semaines pour des faits a priori prescrits. Ce sont désormais au moins 31 plaintes qui visent le chanteur déjà mis en examen.
À partir de l'année prochaine, envoyer une lettre ou un colis va vous coûter plus cher.
Plus 6,73% de hausse en moyenne dès janvier, annonce La Poste, qui entend compenser la baisse du nombre de courriers envoyés. C'est d'ailleurs la lettre verte qui sera la plus touchée, plus 10% sur le prix du timbre. Ça fait 15 centimes de plus. Les envois sont effectivement moins nombreux, Alexandre Thibault, mais cela va décevoir ces Français très attachés à la lettre papier.
Marion sort du bureau de poste avec un carnet de timbre en main.
Nous, on est très carte postale dans la famille, donc je pense que les derniers courriers qu'on enverra, ce sont des cartes postales.
Elle accompagne sa fille de 12 ans, Thaïs, qui poste une lettre.
Ça fait toujours chaud au cœur quand on en reçoit. Et je pense que ça fait un bon souvenir, surtout quand on est enfant. Ça nous permet d'être autonome et de ne pas avoir à demander un téléphone. Ou...
Prendre le temps d'écrire un courrier, Claïs en envoie très régulièrement.
Là, j'ai envoyé 8 lettres d'un coup.
À sa famille en Nouvelle-Calédonie, cette nouvelle hausse de 15 centimes.
Quand on achète beaucoup de timbres, ça dissuade un petit peu d'envoyer des lettres vu le prix du timbre. Bon, c'est toujours pas excessif, mais ça donne de moins en moins envie. Puis même si j'enverrais moins de lettres, je continuerai d'en envoyer, je pense.
La Poste justifie cette nouvelle augmentation par la baisse du nombre de lettres transportées. Mais Guy pense même que dans quelques années, il n'y aura presque plus de courrier.
Ça va devenir rare, précieux, le fait que la personne prenne du temps, se déplace, fasse un effort pour écrire une note qui est personnelle.
Si rare, si précieux qu'il faut le préserver, selon cette autre étudiante.
Est-ce qu'il faudrait pas faire l'inverse et baisser le prix du timbre pour justement inciter les gens à de plus en plus envoyer de lettres?
D'ici 2030, La Poste prévoit de distribuer 15 milliards de lettres de moins qu'en 2018.
Des mois, des années de rumeurs et dans quelques heures l'officialisation. Zinedine Zidane, la légende qui est de retour. C'est son nom qui doit être dévoilé en conférence de presse ce matin par la Fédération Française de Football pour devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. François Pinet, rédacteur en chef football chez RMC Sport. Vous êtes en direct avec nous, François. Après 14 ans de Didier Deschamps, on doit s'attendre à une petite révolution. révolution.
Oui, sans être une rupture totale avec les années d'échange et une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'équipe de France ce matin. Depuis 5 ans et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane s'est éloigné des terrains. Il a refusé de nombreuses sollicitations pour attendre ce moment, mais on le sait, ça fait plusieurs mois qu'il travaille à la constitution de son staff, un staff qui devrait être conséquent, près de 25 personnes, avec cette volonté de s'entourer de ceux qu'il connaît par cœur, à commencer par son adjoint de toujours, David Bettoni, qu'il a accompagné lors de ses succès au Real Madrid. Même si tout n'a pas filtré, on retrouvera sans doute Grégory Dupont, préparateur physique de renom, lui aussi passé par le Real, et d'anciens coéquipiers de France 98 comme Fabien Barthez ou encore Bernard Diomède. On espère en savoir plus aussi tout à l'heure sur l'idée qu'il se fait de l'équipe de France et sur l'identité de son futur capitaine. Comme son prédécesseur, il devrait s'appuyer grandement sur Kylian Mbappé, qui sort d'une Coupe du Monde réussie. Les deux hommes se connaissent et s'apprécient. Zidane qui pourra profiter de cet été pour réfléchir à sa première liste pour son premier grand rendez-vous sur le banc, prévu le 25 septembre prochain. Ça sera en Turquie pour le début de la Ligue des Nations.
Merci François Pinet. Une annonce dont vous ne raterez rien sur RMC, qui bouscule ses programmes avec une émission spéciale à partir de 11h et ce soir de 20h à 23h, l'After Foot entièrement consacré à Zizou.
Clara Gabillet pour le journal, et on reviendra bien sûr sur cette nomination de Zidane dans un instant. On va en parler avec Philippe Tournon, qui a été le chef de la presse pour l'équipe de France pendant 30 ans, qui a connu lui-même 9 sélectionneurs. Il a connu aussi Zinedine Zidane comme joueur. Ce sera dans un instant. D'abord, on part au 32-16. C'est Mathieu qui est avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Bienvenue Mathieu, je vois que vous êtes chauffeur routier dans le Morbihan et vous êtes aussi pompier volontaire. Comment est-ce que vous regardez ce qui est en train de se passer en Gironde? Vous avez peut-être des collègues qui sont là-bas?
Ouais, j'ai un collègue là de ma caserne qui est parti là-bas cette semaine.
Vous avez des nouvelles de lui?
Ouais, il travaille pas mal. Ils ont du boulot, hein, c'est normal. Hein,
c'est ce qu'on voit.
Hein, donc moi, je sais que j'ai déjà fait des campagnes où j'étais dans renfort dans le sud aussi également. C'est des semaines intenses où on n'a pas énormément de travail, mais on va dire la solidarité autour nous fait oublier pas mal de choses comme la fatigue ou les choses comme ça, parce que c'est vrai que la solidarité l'attraction qu'il y a tout autour de cette période-là est quand même montre que la solidarité est encore présente, quoi.
Ouais, on voit que les gens se serrent les coudes. Il y a notamment les agriculteurs qui viennent en aide. Est-ce que vous vouliez nous dire ce matin au 32-16, c'est que il faut absolument régler cette histoire de moyens pour les pompiers. Il y a des choses qui manquent. Et dites-nous exactement finalement ce qui vous manque, ce que vous avez vous observé. Qu'est-ce qui fait défaut aujourd'hui au service de secours?
Moi, je pense que là, on est sur une période où il y a énormément de gens qui viennent aider. Des fois, limite, c'est frustrant pour nous, des fois, moi, je vois ça d'un œil frustrant, de voir autant de gens qui viennent nous aider, qui viennent nous donner un coup de main, qui sont là aujourd'hui pour nous aider. Et puis, après cette période-là, on va pas réussir à les faire basculer dans l'engagement volontaire chez les pompiers volontaires. Et on a besoin du monde là aujourd'hui, mais on a besoin du monde toute l'année. Et on demande plus de moyens. C'est vrai que les gens demandent plus de moyens, plus de véhicules. Mais acheter des camions, mais un camion vide dans une caserne, ça restera un camion vide. Que s'il n'y a pas de personnel pour mettre autour, s'il n'y a pas de personnel pour mettre dedans, ça restera un camion vide et ça sera de l'achat inutile. Je pense qu'il faut qu'on augmente ça, qu'on
rende aussi peut-être cet engagement plus attractif. En tout cas, on entend votre appel ce matin à tous ces gens qui ont envie de se sentir utiles dans ces périodes-là. On a besoin de pompiers aussi volontaires tout au long de l'année. On a besoin de leur engagement. On a bien entendu votre appel. Merci Mathieu pour votre appel au 32-16 sur RMC. Il est 8h14.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, je vous le disais, c'est Philippe Tournon qui est avec nous, l'ancien chef de presse de l'équipe de France, pour revenir sur la nomination de Zinedine Zidane qui est attendue ce matin. Est-ce l'homme de la situation? On verra ce qu'en pense Philippe Tournon et ce que vous en pensez. Ça se passe au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h17, vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Notre invité a vu passer 9 sélectionneurs en équipe de France, a vécu 337 matchs des Bleus de 83 à 2018, 30 ans dans les couloirs et dans les vestiaires de l'équipe de France, et surtout pour organiser les conférences de presse comme chef de la presse de l'équipe de France. Bonjour Philippe Tournon.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin. Okay. C'est donc le grand jour pour Zidane qui va devenir tout à l'heure sélectionneur des Bleus. Pour vous, c'est l'homme de la situation, c'est le choix évident, nous disait Eric Dimeco tout à l'heure.
Oui, évident dans la mesure où il n'avait pas caché son goût pour l'équipe de France et il avait dit que son histoire avec les Bleus n'était pas terminée. Donc à partir du moment où on a, si j'ose dire, en magasin un personnage de cette dimension, c'est l'évidence, comme disait Eric, bien sûr. Mmh.
Qu'est-ce que ça va changer pour l'équipe de France? C'est quoi le style Zidane?
Ça va changer pour l'équipe de France, je pense, pas grand-chose. Pour Zidane, ça va changer beaucoup. La fonction de sélectionneur n'est comparable à nulle autre fonction. On a connu des entraîneurs de clubs qui ont été flamboyants, qui ont eu des réussites magnifiques et qui n'ont pas réussi avec l'équipe de France. Donc c'est une fonction qui exige des attitudes, des disponibilités, des mots, des réactivités qui ne sont pas celles en club. En club, le technicien a son effectif sous la main tous les jours. Mmh. Un petit incident dans le vestiaire, hop, le lendemain, le surlendemain, on en reparle, c'est classé. En équipe de France, il y a 3-4 rendez-vous d'une huitaine de jours par an. Et puis après, ça n'existe plus. Quand les joueurs arrivent, ils ont en tête le championnat, la Champions League. Il faut les mettre focus équipe de France en 24 heures. C'est très, très, très particulier.
Oui, il y a des ingrédients particuliers. Et il y a son profil. C'est vrai qu'on voit Zidane souvent comme quelqu'un de très discret, de très pudique, de pas très forcément, pas très bavard. Est-ce que dans le vestiaire, c'est un autre homme? Est-ce que depuis qu'il est devenu entraîneur du Real, c'est un autre homme?
Oui, bien sûr. Quand il est passé du joueur tête baissée, parlant tout bas, il fallait tendre l'oreille pour comprendre ce qu'il disait, son passage à la fonction d'entraîneur, ça a révélé un autre homme. Et personne ne va se donner le ridicule de prétendre qu'avec le joueur fantastique qui a été Zizou et le jeune entraîneur qui a offert 3 Champions League au Real Madrid pendant 3 années d'exercice, il n'est pas l'homme de la situation. Mais je le répète, j'attends avec beaucoup d'intérêt et de gourmandise sa capacité à enfiler ce costume de sélectionneur qui a réservé beaucoup de surprises. Rappelons-nous que Aimé Jacquet, qui n'avait bien sûr pas la stature mondiale d'Aimé Jacquet, est resté invaincu pendant 30 matchs et 2 saisons. Et il a été pris bille en tête par les médias parce que on jouait pas assez comme ci, on jouait trop comme ça, on n'appelait pas celui-ci, on n'appelait pas celui-là. Donc l'immense prestige, l'immense réputation de Zizou va être un blanc-seing dans un premier temps, mais il va devoir se confronter aux exigences du poste et des suiveurs.
Et on dit souvent, Philippe Tournon, qu'il y a 60 millions de sélectionneurs en France et tout le monde aura son avis. Alors il a quand même la chance de récupérer une équipe avec de très grands talents et une équipe qui en plus est très prometteuse pour les années qui viennent. Pour autant, il y a quand même un défi, hein, c'est qu'on sort de l'ère des champs, il va falloir faire au moins aussi bien.
Bien sûr, il y a un défi, il y a une exigence et Zinedine va devoir trouver les bons mots, les bonnes attitudes, la disponibilité aussi. Est-ce qu'il est prêt à s'investir, à dire comme Didier que l'équipe de France est au-dessus de tout et qu'elle mérite tous les sacrifices? Je pense qu'il est plein de bonne volonté, mais ça suffit pas. Il faut avoir la capacité d'enfiler ce costume. Et encore une fois, il est très, très particulier.
Il y a un personnage, évidemment, qui sera très important, c'est Kylian Mbappé. On sait que Didier Deschamps avait tissé avec lui des liens très particuliers. On sait quelle est la relation entre Zidane et Mbappé?
Oui, enfin, on la devine. Le Real Madrid, même s'ils n'y ont pas été en même temps, mais il y a une espèce de communion par le jeu, par une certaine idée du football. Et les récentes déclarations de Zinedine Zidane disant que il va définir bien sûr un cadre de jeu, mais qu'une fois dans les 30 derniers mètres, c'est la créativité, c'est le sens du but, c'est la complicité qui va faire la différence. Et là, avec les Lascars qu'on a devant, Dembélé, Mbappé, Olise, on est super bien armés, donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là, je crois pas.
On peut espérer voir revenir dans son staff des anciens champions du monde 98. On lit ça
on
ici ou là.
Beaucoup. On le dit beaucoup, mais les secrets sont bien gardés, mais on répète avec tellement d'insistance que Barthès serait dans l'aventure, que Bernard Diomède aussi. Donc on peut penser que la fibre France 98 sera quand même bien présente dans ce nouveau staff.
Avec donc des premiers rendez-vous, on le disait tout à l'heure, contre la Turquie et contre la Belgique au mois de septembre. Merci beaucoup Philippe Tournon d'avoir été en direct ce matin avec nous sur RMC. Ancien chef de la presse de l'équipe de France pendant 30 ans au sein des Bleus. Et vous ne manquerez rien sur RMC puisque RMC bouscule ses programmes aujourd'hui. Émission spéciale à 11h pour suivre la conférence de presse qui donc formalisera la nomination de Zinedine Zidane. Et puis l'after dès 20h ce soir, 20h, 23h, l'after entièrement consacré à Zizou. Il est 8h23, l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Lechypre, on parle de MaPrimeRénov ce matin et les demandes d'aide qui ont chuté très fortement au cours des premiers mois de l'année.
Oui,
les six premiers mois de l'année.
Exactement. MaPrimeRénov, il faut le rappeler, c'est la principale aide publique à la rénovation énergétique des logements. Mais le dispositif créé en 2020 est devenu une véritable saga à multiples rebondissements qui finit par perdre les Français puisque les demandes d'aide pour une rénovation globale ont été 4 fois moins nombreuses au premier semestre 2026 qu'au premier semestre 2025, nous dit l'Agence nationale de l'habitat qui distribue ces subventions. Alors, il y a d'abord eu un trop grand nombre de demandes. Il y a eu des tentatives de fraude qui ont fait que le dispositif avait été suspendu à l'été 2025. Il était revenu en septembre, mais avec des aides divisées par deux et uniquement pour les ménages très modestes dans un premier temps. Puis il y avait eu l'absence de budget jusqu'en février qui avait gelé les dépôts de dossiers. Et puis après, il faut souvent plus d'un an pour que le dossier soit traité, sachant que les règles ne cessent d'évoluer puisque en juin, le gouvernement a réduit les travaux éligibles à MaPrimeRénov pour encourager les rénovations d'ampleur des logements plutôt que les travaux au coup par coup. Bref, c'est une saga qui n'en finit pas.
Oui, en fait, ce que vous lui dites, c'est que déposer son dossier MaPrimeRénov, c'est surtout un cauchemar.
Ah, c'est un cauchemar. Alors, c'est un dispositif qui est très français. Le principe fait consensus, mais la complexité est vite devenue délirante. Le périmètre des aides qui change tout le temps, les critères d'éligibilité qui sont quand même extrêmement compliqués, ça dépend du revenu, ça dépend du type de logement, ça dépend du type de travaux. Les particuliers ne savent plus à quoi ils ont droit. Les artisans ont du mal à suivre. Les dossiers s'enlisent pendant des mois. Il faut avancer l'argent. Les fraudes se sont multipliées. Les prix ont augmenté. Bref, en plus, le bilan énergétique est incertain. C'est un véritable parcours du combattant. On pourra quand même se féliciter en disant que le cap des 500 000 logements qui ont bénéficié de cette aide depuis son lancement a été franchi. Aides qui vont de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'euros.
Très vite, les chiffres du jour, les prix de l'énergie.
Ouais, un peu de répit. Bon, le gazole, ça monte toujours. On est au plus haut depuis le mois de mai. 2,21 € le litre, 35 centimes de plus en 3 semaines quand même. C'est plus raisonnable sur le samplon 95, 2,02 €, 16 centimes de hausse depuis début juillet. Le pétrole, ça retombe après les déclarations apaisantes, entre guillemets, de Donald Trump. 87,3 $ le baril après un petit accès de fièvre à 100 $. Et puis le gaz, pareil, la pression retombe un peu à 57 € le mégawatt-heure après 63 la semaine dernière.
Merci Manu Lechypre. Tout de suite Arnaud Demanche.
Je garde des sceaux. Gérald Darmanin veut stopper l'immigration légale pendant 3 ans.
Oui, comme ça l'administration française aura enfin le temps de traiter les dossiers de 2019, voire de 2020. Et pour fêter ça, Gérald Darmanin va commander une pizza. Alors, voyons voir. Votre livreur arrivera à 20h37. Eh ben c'est parfait. Le 28 mai. Ah merde. 2031. Ah non, ça va pas du tout. Ouvrez les frontières, on s'en sort pas. Plus d'immigration pendant 3 ans, voilà. Qu'est-ce qu'ils vont raconter sur Europe 1 ? Bonjour et très heureux de vous retrouver pour ces 3 heures d'émission. 3 heures ! Eh oui, 3 heures. 180 minutes, hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, moi ? Il n'y a plus d'immigrés. Et l'émission va durer 3 heures. Et après, demain, il y aura l'émission de demain. Ne la loupez pas, elle va durer 3 heures aussi. Et on parlera de... pas d'immigrés déjà. Et allez, l'émission est déjà finie, c'est déjà fini. Laurence Ferrari, c'est à vous. Oh non, c'est à vous. Non, c'est à vous, les dames d'abord. Moi, ça m'arrange pas. Mon émission, elle dure 2 heures. Oui, bah, la mienne, elle dure 3 heures. Pareil au RN. Ils doivent paniquer. Jean-Philippe Tanguy et Sébastien Chenu. Ils ont dû avaler de travers. Tanguy et Chenu, vous voyez, c'est les deux figures les plus emblématiques sur le RN, à part Marine et Jordan. C'est un duo rigolo, quoi. C'est un peu comme une sitcom. C'est moi Chenu.
C'est moi Tanguy.
C'est moi le grand.
Et moi le petit.
C'est moi Chenu.
C'est moi Tanguy. Et nous sommes du même avis. Salut Chenu.
Salut Tanguy.
Dis donc Chenu, est-ce que t'as vu que Darmanin propose de supprimer l'immigration légale pendant 3 ans?
3 ans? Non mais alors là, mais vraiment, mais c'est n'importe quoi. Mais on va parler de quoi aux Français? De notre programme économique?
Sinon, on pourrait leur parler de notre programme de politique internationale, il est super bien. Sinon, on pourrait parler d'écologie, on est crédible là-dessus.
Bon, bah, c'est un peu chiant. Les gens qui rigolent, vraiment, c'est pas au niveau.
Non,
pas au niveau.
Non. Vous me refaites le petit jingle, c'est moi.
C'est moi, Chenu. Ah, réécoutez-le en podcast.
Oh, il est trop beau, il est trop beau.
Très dur à faire la première fois.
C'était magnifique.
Arnaud Demange, à retrouver en podcast sur l'appli RMC sur rmc.fr. Dans un instant, la météo et un nouveau journal.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure d'un nouveau journal avec Clément Gouiz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Un peu d'optimisme ce matin en Gironde. L'incendie qui n'est toujours pas fixé n'a pas gagné de terrain cette nuit. Il est stabilisé, mais le travail des pompiers s'annonce compliqué aujourd'hui en raison des mauvaises conditions météo. Un décor d'après-guerre au Porges, en Gironde. C'est ce que le feu a laissé derrière lui. Des maisons détruites, en cendres, un paysage totalement transformé. Témoignage RMC dans ce journal. Et c'est à vivre sur RMC, dès 11h, le début de l'ère Zidane, le champion du monde 98, sera officiellement nommé sélectionneur des Bleus.
La nuit a été calme en Gironde.
L'incendie est stabilisé. Les pompiers ont dû traiter plusieurs reprises de feu cette nuit. Mais l'incendie n'a pas gagné de terrain ces dernières 24 heures. Reste maintenant à le fixer. Justement, Jean-Wilfried Forquez, vous êtes notre envoyé spécial RMC en direct ce matin de Lège-Cap-Ferré. Les mauvaises conditions météo du jour inquiètent les pompiers.
Oui, c'est ça, il va faire très chaud dans les prochaines heures, 40 degrés attendus aujourd'hui, 42 degrés attendus pour demain, et des conditions hydrométriques qui vont compliquer tout ça, notamment avec du vent en plus qui va se rajouter avec des fortes rafales attendues. Alors, tout à l'heure, le chef du secteur ici a passé le relais à son collègue de la journée. Il lui a dit, ben voilà, il faut poursuivre le combat sur le terrain. Alors, on déploie des cartes sur les véhicules de pompiers en ce moment, et on organise le travail de la journée. Il s'agit une nouvelle fois de combattre les fumerons au sol, de noyer complètement les lisières. Et pour cela, eh bien, il y a des pompiers qui viennent de absolument partout. Il y a des pompiers d'ici, d'Andernos, de Gujan-Mestras. On était avec eux ce matin. Il y a des marins-pompiers également de Marseille ou des pompiers, des sapeurs-pompiers qui sont venus de Montpellier. Au total, aujourd'hui, pour cette journée de mardi, il y aura environ 1500 pompiers qui seront sur le terrain, déployés pour noyer eh bien, ces lisières et puis stopper la progression éventuelle des fumerons.
Jean-Wilfried Forquès en direct du PC Pompier de Lège-Cap-Ferré pour RMC. La 63 toujours fermée entre Bordeaux et Bayonne. Et trafic SNCF toujours interrompu au sud de Bordeaux. Ce témoignage RMC d'Apolline Matin de cet habitant du Porges en Gironde, Yves Brugy-Regard. Il a perdu sa maison ravagée par les flammes.
C'est l'apocalypse inimaginable. C'est des visions d'horreur. On comprend pas comment un pays qui se veut être une puissance mondiale puisse faillir à ce point-là et permettre que des familles soient brisées. Quelques murs qui sont debout, mais il reste rien, tout s'est effondré. À l'intérieur de la maison, on reconnaît même pas les meubles. Il va falloir demander des comptes à l'État. Comment ça a pu avoir lieu, la chaîne de décision, parce qu'on a entendu quelques décisions qui nous semblent un peu aberrantes. Il y a beaucoup de colère, on veut des réponses.
L'incendie dans l'élan, lui, est fixé, annoncé hier d'Emmanuel Macron, 3600 hectares brûlés et près de 200 bâtiments détruits.
Et une chaîne de solidarité se met en place pour accompagner sur le terrain les pompiers.
Des Français qui se mobilisent partout dans le pays pour apporter leur aide. Martin Lange a pu échanger avec plusieurs de ses volontaires.
David est agriculteur en Charente. Après avoir vu les premières images de l'incendie, il n'a pas hésité une seconde.
J'ai dit alors, mon chauffeur était motivé, j'ai dit on part. La solidarité agricole a toujours existé, j'ai un tracteur et une citerne, j'ai toujours fait ça.
Depuis samedi soir, il se bat aux côtés des pompiers.
On ravitaille les camions pour des reprises de petits feux, des fumerolles qui traînent par-ci par-là. Quand on n'alimente pas les camions, on est en première ligne, on stoppe le feu comme on peut.
D'autres collectent des denrées ou des produits d'hygiène. Kevin a fait 600 km depuis le Maine-et-Loire pour les acheminer jusqu'en Gironde vendredi dernier.
On a tout mis en fait sous le sac sous vide pour que ça puisse
puisse passer dans la voiture, mais vraiment jusqu'au plafond.
600 serviettes et 400 gels douche reçus comme une bénédiction à Montussan, à quelques kilomètres des flammes.
On a été accueillis les bras ouverts, ils étaient vraiment émus par la quantité, surtout qu'il y ait une mobilisation comme ça qui vienne de toute la France.
Autre initiative dans la Creuse, la ville d'Aubusson a décidé d'ouvrir son camping municipal aux vacanciers piégés par les flammes. Stéphane Ducourtiot, le maire.
On est situé à 300 km, donc un peu loin de tout, et on s'est posé la question, on comprend ce qu'on peut se rendre utile. On peut pas aller éteindre les incendies, bah pourquoi pas leur proposer de faire une halte en Creuse.
Une soixantaine de places sont actuellement disponibles gratuitement, une solution de repli supplémentaire pour la préfecture de Gironde.
Alors, quelle solution proposer aux sinistrés? Emmanuel Macron appelle à la solidarité. Le gouvernement s'active, multiplie les réunions, annonce l'activation du chômage partiel pour les 13 000 entreprises sommées d'évacuer en Gironde. Et Sonia Gobry, les assureurs prennent aussi des engagements.
Oui, le délai pour transmettre les déclarations de sinistrés prolongé jusqu'au 31 août. Ça laisse un peu plus d'un mois au lieu de 5 jours habituellement. Ensuite, les assureurs prendront en charge pendant 3 semaines les frais de relogement des personnes évacuées en Gironde, dans les Landes et dans le Var, que les logements aient été endommagés ou non. Une mesure exceptionnelle, souligne Olivier Moustakakis, cofondateur d'Assureland.
Ça, c'est une vraie mesure, en effet, et un vrai geste de la part des assureurs. Même sans dommage, d'accord, l'assurance va prendre en charge, en effet, les frais de relogement alors sur une période de 3 semaines. Au-delà de ces mesures, le vrai montant d'indemnisation va constituer sur les habitations qui ont été détruites ou endommagées.
À titre de comparaison, pour les violents incendies en Gironde en 2022, près de 2000 sinistres ont été indemnisés pour environ 80 millions d'euros.
Le montant sera plus important qu'en 2022 sur l'ensemble des sinistres, parce qu'il y a des entreprises aussi qui ont été touchées. Il y a probablement aussi des agriculteurs dont les récoltes ont été impactées.
Conséquence, il y aura selon lui une nouvelle hausse du prix des assurances, alors que les tarifs ont déjà augmenté de 13% en moyenne cette année.
Et la traque des incendiaires s'intensifie. 162 personnes ont été interpellées depuis le 6 juillet pour des départs de feu volontaires, annoncé hier du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui promet une réponse pénale ferme face à ceux qui alimentent ces catastrophes. Deux nouvelles plaintes contre Patrick Bruel. Elles ont été déposées le 16 et 23 juillet dernier. Deux femmes l'accusent de viol et d'agression sexuelle. Des faits a priori à prescrit. Le chanteur, déjà mis en examen, est visé par au moins 33 plaintes.
Il est 8h36, c'est une légende du foot qui prend les commandes des Bleus.
Zinedine Zidane va devenir ce matin officiellement sélectionneur de l'équipe de France. Et Clément Brossard, avec son aura et son palmarès, Zizou arrive en terrain conquis.
Ancien attaquant du Real Madrid, Karim Benzema l'assurait déjà en 2019 pour RMC Sport.
Quand tu vois que voilà, un mec comme Zidane arrive pour t'entraîner, t'as tout de suite envie.
Alors nul doute, pour Emmanuel Petit, son ex-coéquipier chez les Bleus, Zidane saura se faire respecter.
Moi c'est surtout un meneur d'hommes que j'ai envie de voir. Quand Zizou rentre dans une pièce, tout le monde se tait. Ce genre de personnes n'ont pas besoin de beaucoup parler pour rentrer dans la tête des gens. J'imagine que les joueurs ont peut-être hâte de jouer sous les ordres de Zizou.
Des joueurs qui découvriront sa méthode, beaucoup de travail avec ballon, du plaisir, de la créativité et de l'intensité, mais surtout une valeur, le collectif, comme il l'expliquait il y a quelques mois dans le podcast de son adjoint, Amidou Saïdi.
Moi j'ai toujours fait un sport collectif parce que je voulais partager des choses. Le fait de se retrouver, de profiter d'une passion ensemble, moi c'est ce qui m'anime.
Zidane sera entouré dans sa mission d'un staff XXL de presque 25 personnes avec une priorité, faire passer les joueurs avant tout.
T'es là pour le joueur. Si t'as pas compris ça, tu peux pas durer dans ce métier. T'es là pour montrer que t'es là pour eux. Mais tu sais très bien que le joueur, à la fin, il faut que tu gagnes. Il va nous juger, nous, staff, sur ça.
Et c'est également sur sa capacité à remporter des titres majeurs que Zinedine Zidane sera jugé par le grand public.
Son premier match sur le banc des Bleus est prévu le 25 septembre prochain face à la Turquie. Vous ne ratez rien de cette annonce avec une émission spéciale à partir de 11h sur RMC et ce soir de 20h à 23h, l'after foot entièrement consacré à Zidane.
Le quintet, c'est à Compiègne aujourd'hui, 18h30.
Le pronostic de la Dream Team, leur favori, le 2, leur outsider, le 3, Botticelli.
C'était le journal de Clément Gouitz sur RMC. Il est 8h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
À suivre sur RMC, l'invité du jour, c'est ce matin Marine Tondelier, la patronne des écologistes, qui estime que l'État porte une lourde responsabilité dans les incendies. Elle parle même de pyromane politique. Et puis, parole de supporter, on va revenir sur la nomination de Zidane à la tête des Bleus. Et on sera à Marseille, où vous allez voir que Zizou est toujours une légende. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h42, vous êtes bien sur RMC. Et c'est l'heure du choix de la rédaction ce matin avec vous, Diane Carlotti. Bonjour, vous êtes journaliste RMC Sport. La Fédération Française de Foot va donc officialiser le nom du successeur de Didier Deschamps et ce sera donc Zinedine Zidane, l'idole marseillaise qui va occuper ce poste. Et justement, hein, à Marseille, l'arrivée de Zizou, c'est surtout le retour de la légende dans son pays.
Oui, quand on est français et qu'on aime le football comme Steve, Zidane, c'est...
C'est comme Michael Jackson. Encore aujourd'hui, on a qui l'écoute, alors qu'il est mort il y a déjà très longtemps. C'est la plus grande légende pour moi, plus que Platini, mais c'est un autre niveau.
Le Marseillais, champion du monde et ballon d'or en 1998, a fait rêver des générations par ses gestes techniques de grande classe et sa vision du jeu unique.
Dans l'axe, Zinedine, le contrôle! Le contrôle est libre!
Mais il ne faut pas croire que cet amour inconditionnel pour Zizou se limite aux nostalgiques qui ont vécu ses plus grandes heures. Calvin et Mohamed ont moins de 25 ans et ne l'ont donc jamais vu jouer. Pourtant, ils admirent l'ancien numéro 10.
C'est l'idole de tout le monde en France. Il n'y a pas une personne qui peut mal parler de Zizou.
Nos parents nous en parlent, nos grands-parents nous en parlent. On nous raconte ce que Zidane a fait. On a pu voir aussi, grâce aux archives, ce qu'il a pu accomplir. Du coup, ça nous a transmis cette admiration envers Zidane.
Pour les anciens, Zizou, c'est le doublé face au Brésil en Coupe du Monde 98.
Premier poteau.
Il y a eu deux corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane.
Mais aussi un côté plus sombre avec ce coup de tête synonyme d'expulsion en finale du Mondial 2006 pour son dernier match avec les Bleus.
Pas ça, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Dorian et les jeunes fans de foot, eux, retiennent surtout que Zidane a déjà fait ses preuves comme entraîneur de club.
Je pense au Real, ce qu'il a fait comme entraîneur. Et avec trois Ligues des Champions d'affilée, je pense que c'est la bonne affaire.
Un avis que partage le perchiste Renaud Lavillenie, autre légende du sport français.
Tout le monde a rêvé et on l'a. Un champion du monde qui remplace un autre champion du monde. Sur le papier, c'est cool, quoi. On a tous, je pense, hâte de voir ce que ça va donner.
Alors la question qu'on se pose, Diane, c'est est-ce que arriver avec ce statut de champion du monde, ce statut de légende, c'est une garantie de réussite ou c'est même un risque pour Zidane ?
Oui, justement, on a demandé à d'autres icônes du sport tricolore, nos consultants RMC Sport, ce qu'ils en pensent. Et Emmanuel Petit, champion du monde 98, lui aussi, croit en l'aura de son ex-coéquipier.
Dès qu'on parle de Zizou, on rentre un petit peu dans l'irrationalité. Tout ce qui touche se transforme en or. Si demain il est sélectionneur, est-ce qu'il pourra justement transformer en or les objectifs de l'équipe de France? J'aime à penser que oui.
Dans l'histoire des Bleus, on a l'exemple d'une légende devenue sélectionneur, Michel Platini, en 1988. Et l'aventure n'avait pas été un franc succès. Alors Jérôme Rotten, qui a évolué en bleu aux côtés de Zizou entre 2003 et 2006, attend que l'ancien du Real Madrid fasse ses preuves.
Il va falloir qu'il trouve des arguments, des ingrédients peut-être différents. Et là, on est en droit de se poser des questions. Moi, j'ai plein d'interrogations sur Zidane, mais je pense comme tout le monde. Après, je dis pas qu'il va pas y arriver. Il a, et ça durera un certain temps, mais ça va pas durer longtemps, cette aura-là, aujourd'hui, auprès des joueurs, auprès du grand public.
Pour trancher, on a laissé le soin à l'ancien judoka David Douillet, double champion olympique et légende du sport français de s'en charger. Alors David, risque ou pas risque pour Zidane?
Un risque de quoi? Un risque de pas réussir, c'est le sport, il le sait. C'est dans l'étroitesse du chemin qui peut t'amener à la victoire que tu trouves tout ton plaisir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il a en lui et qu'il recherche parce que c'est un vrai compétiteur.
Reste à savoir si Zinedine Zidane, le compétiteur, fera mieux que son ex-coéquipier Didier Deschamps à la tête des Bleus.
Diane Carlotti, reportage RMC Sport. On est avec Stéphanie au 32-16. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour.
Bienvenue au 32-16. Stéphanie, merci. Fan de foot?
Fan de foot, oui, abonné à l'OM, vraiment fan de foot, puisque on
a. Alors Zidane, est-ce que c'est l'homme de la situation?
Alors j'espère, en tout cas, je pense que cette nouvelle est attendue par les millions de fans de foot et fans de Zidane, parce que c'est Zidane, quoi. Il y a pas de, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est un joueur incroyable, c'est un homme qui a une aura qui rayonne vraiment sur tous les joueurs, je pense, qui l'encadrent. Et puis, ben Zidane, c'est le symbole de notre première victoire en Coupe du Monde. Donc voilà, donc au-delà du joueur en lui-même, je pense qu'il représente vraiment quelque chose dans le cœur des Français. C'est vraiment un type en plus qui est humble, je pense, enfin, en tout cas de ce que l'on en connaît de par les réseaux ou par les médias. On a vraiment l'impression que c'est un homme respectueux qui va aller jusqu'au bout et qui a des valeurs, et j'espère que il va pouvoir mener l'équipe de France très très loin avec un beau jeu, avec un
bouger. Et gagner, on verra si et cette gagner, aura a un effet sur les joueurs, forcément, dans le vestiaire. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir composé le 32-16 ce matin, et à très vite sur RMC. Dans un instant, on revient sur les incendies. L'État porte une très lourde responsabilité, accuse la patronne des écologistes Marine Tondelier. Elle est avec nous en direct dans un instant. Elle parle de pyromane politique. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h49 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. L'État accusé d'impréparation. A-t-il une responsabilité dans les incendies terribles que nous vivons ? Bonjour Marine Tondelier.
Bonjour et merci de votre invitation.
Merci à vous d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes la secrétaire nationale des écologistes, candidate à la présidentielle. Vous dites l'État a une lourde responsabilité. Vous dénoncez même des pyromanes politiques. On a des pyromanes au gouvernement ?
Oh, pas qu'au gouvernement, vous savez, mais on a quand même une majorité présidentielle et puis beaucoup de gens qui sont à leur droite, qui ont voté depuis des années, beaucoup de recul dans la lutte contre le climat et qui ont même voté contre les mesures que nous proposions pour améliorer la protection civile, les conditions de travail des pompiers. Vous pouvez regarder les votes à l'Assemblée nationale, c'est très très clair.
Ça n'est qu'une question de budget ? J'imagine que
non. C'est pas qu'une question de budget, c'est une question déjà en fait d'urgence climatique qui devrait être déclarée dans le pays et on devrait se mobiliser là-dessus, une forme d'état d'urgence. Et puis il faut un état-providence climatique. Vous savez, quand on a monté la sécurité sociale dans les années 45, là, juste après la guerre, évidemment, le risque climatique, on ne l'avait pas encore tous en tête comme ça, il était beaucoup plus loin. Aujourd'hui, maintenant qu'il est là, on doit protéger tous les Français, et c'est le rôle de l'État face au risque climatique. Ça veut dire améliorer le régime des catastrophes naturelles, ça veut dire faire évoluer le droit du travail pour mettre le congé climatique, ça veut dire aussi aider, par exemple, les maraîchers qui viennent de perdre 20% à peu près en moyenne de leur récolte déjà et qui n'ont pas de plan d'aide là-dessus, contrairement aux céréaliers. Il y a plein de mesures sur lesquelles l'État doit s'engager pour nous protéger. C'est pas ce qu'ils font. Eux, ils font qu'aggraver les mesures. Par exemple, dire on pourra faire plus de méga porcheries et plus de méga élevage de volailles. Est-ce que c'est vraiment le moment et la priorité, sachant qu'on sait la contribution de l'élevage au changement climatique ? Non. Nous, on est pour les petits éleveurs qui crèvent d'ailleurs de ces méga élevages pour manger de la viande de meilleure qualité, accessible à tout le monde. C'est pour ça qu'on veut une sécurité sociale de l'alimentation. Mais quand on voit que le gouvernement est occupé sur les méga-élevages, à dire aussi qu'on va remettre des pesticides dangereux dans l'air, à renoncer sur beaucoup de ses objectifs climatiques...
Vous reliez la sécheresse à toutes les problématiques environnementales. Mais très concrètement, Marine Tondelier, vous, présidente de la République, est-ce que vous auriez empêché cet incendie ?
Il y a toujours eu des incendies, il y en aura toujours. Mais vous voyez bien qu'à mesure que le changement climatique progresse, les incendies, on a de plus en plus de mal à les maîtriser parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a la sécheresse, parce qu'on a planté, là par exemple dans les Landes, des mono-espèces, des monocultures de pins dont on sait qu'ils s'apparentent à une boîte d'allumettes. Tout ça, c'est des choses que nous dénonçons depuis longtemps. Et puis moi, je vais vous dire, on est bientôt le 4 août. Et le 4 août 1789, à la Révolution française, on avait voté l'abolition des privilèges pour le clergé et la noblesse. Eh bien, je pense qu'il est temps de voter l'abolition des privilèges climatiques. Ça pourrait être le 4 août 2026, qui sait. Et qu'on mette fin à ces privilèges.
C'est quoi les privilèges climatiques ?
Vous voyez, les milliardaires, les 50 les plus riches de cette planète, en 90 minutes, ils émettent autant de CO2 qu'un humain moyen dans toute sa vie. Et donc, ce sont des personnes qui sont principaux contributeurs au changement climatique, mais qui ont les moyens de s'en préserver. Là, je voyais maintenant que les ultra-riches, ils se construisaient des igloos d'intérieur, fort bien. Bon, et ben pendant ce temps-là, nous, on est victimes des canicules, quatrième vague bientôt, les agriculteurs perdent leur production, des Français perdent leur maison, et on n'est pas... aider et protéger par rapport à ça. Donc maintenant, les super yachts, les jets privés, par exemple, les jets privés, il faut leur interdire d'atterrir en France et en Europe, point. C'est terminé en 2026, c'est plus possible.
Marine Tondelier, à la question de la forêt, vous citiez ce qu'on appelle la monoculture, c'est-à-dire ces forêts entièrement plantées de pins qui ont déjà beaucoup brûlé en 2022 en Gironde, on en avait déjà beaucoup parlé à ce moment-là. Ça veut dire qu'il va falloir replanter différemment cette forêt qui a brûlé aujourd'hui ?
Bien sûr, et vous savez, on a des experts de la forêt dans ce pays, ça s'appelle l'Office National des Forêts, l'OMF, l'ONF, et ils ont perdu 40% de leurs moyens ces dernières années sur des mesures gouvernementales, tout comme d'ailleurs Météo France, que le gouvernement prévoyait de remplacer petit à petit par l'intelligence artificielle. Eh bien voilà, déjà il faut garder nos experts, c'est toutes les structures qui sont experts de l'environnement sont en train d'être attaquées en règle financièrement et pas que par le gouvernement et par d'autres à droite. Ensuite, voilà, il faut écouter ce que disent les experts des forêts. Ils ont toujours dit que les monocultures c'était pas bon. C'est pas des forêts qui sont là en fait pour rafraîchir ou pour juste pour la beauté de la nature. C'est des forêts qui sont là pour l'exploitation sylvicole.
C'est des forêts donc, privées d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, mais du coup, c'est des coupes rases, etc. Quand M. Macron avait annoncé un grand plan forêt il n'y a pas longtemps, on venait nous voir les écolos en disant « Ah, mais vous n'êtes vraiment jamais contents, même là, quand ils plantent des arbres, vous ne le soutenez pas ». Ben non, parce qu'en fait, ce qu'ils promouvaient, c'était des coupes rases et des plantations d'espèces qui poussent très très vite, qui sont exploitables très rapidement, ce qui était vraiment un objectif de rentabilité plus que de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique.
Ah, on a une liaison qui, semble-t-il, a coupé avec Marine Tondelier. On va essayer de rappeler Marine Tondelier qui nous disait donc qu'il fallait arrêter avec ces forêts de monoculture entièrement plantées de pins. Il y a des messages aussi sur ces questions-là, sur la question des moyens aussi, sur le WhatsApp RMC.
La question des moyens qui reviennent et ces gens qui ne comprennent pas, ces auditeurs d'RMC qui ne comprennent pas pourquoi on a mis tant de temps à s'adapter, d'autant plus après ces incendies de 2022. On a aussi des messages qui reviennent sur la responsabilité individuelle, j'ai même envie de dire citoyenne. On a Fabien qui nous dit j'ai vu des images passer sur les réseaux sociaux de certaines personnes, de certains habitants qui faisaient brûler des déchets végétaux près d'une forêt. Alors oui, les pompiers peuvent lutter contre le feu, nous écrit Fabien, mais ils ne peuvent pas encore lutter contre la bêtise humaine. Et Fabien de rajouter depuis la Charente-Maritime qu'il exprime tout son respect et son courage aux force des soldats du feu. On a aussi Christian qui pense à ces gens qui ont été atteints, ces sinistrés, en nous disant mais psychologiquement les conséquences de ces incendies vont certainement être terribles pour ceux et celles qui ont tout perdu. Reconstruire sur le terrain, c'est parfois très difficile, surtout dans un temps raisonnable.
Un dernier mot avec Marine Tondelier qu'on vient de retrouver. Pardon, la liaison avait coupé. Marine Tondelier, est-ce que cet été de bascule sur la canicule, sur la chaleur, sur les incendies que nous vivons, est-ce que ce contexte va changer la campagne présidentielle selon vous, ou vous pensez qu'en avril prochain on aura déjà tout oublié ?
Bah, écoutez, on connaît le syndrome de l'autruche. Le syndrome de l'autruche, c'est un mécanisme mental qui fait que face à des nouvelles très dures, le cerveau se bloque, se protège en fait de mauvaises nouvelles. C'est pas une question d'intelligence, c'est vraiment un mécanisme de protection. Les neuroscientifiques le décrivent très bien. C'est le même que si vous avez un examen médical angoissant et que vous n'allez pas en fait ouvrir l'enveloppe parce que vous avez peur du résultat. Bon.
Donc on va tout mettre de côté, on va tout oublier.
Bah, le vrai risque, c'est que dès que les incendies sont derrière nous, c'est pas tout de suite, hein, et que les températures baissent un petit peu, on est tous envie de passer à autre chose. Et puis vous savez comment marche le système médiatique, une actualité en chasse une autre, ça va très très vite dans nos sociétés actuelles, et tout le monde aura envie de penser à autre chose à la rentrée. C'est pour ça que les écologistes ont demandé à ce qu'il y ait une réunion d'urgence à Matignon ou à l'Élysée avec toutes les forces politiques, parce que nous voulons que dès cet été, des mesures fortes soient annoncées, notamment des mesures sur la programmation en procédure d'urgence de la loi qui aurait dû suivre le Beauvau de la sécurité civile.
Et vous demandez cette loi dès la rentrée avec une réunion autour
des Emmanuel
Macron.
Et puis une loi de programmation climatique. Enfin, ça fait 4 ans qu'on la réclame.
Merci beaucoup.
Maintenant, c'est le moment. Merci.
Merci Marine Tondelier, pardon pour cette coupure de liaison, secrétaire nationale des écologistes, dans un instant sur RMC. C'est vos grandes gueules, juste après le journal de 9h. On vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain avec Victor et avec toute l'équipe. Bonne journée.